Bonjour, nous allons nous intéresser à un recueil de nouvelles de Simone de Beauvoir. Trois nouvelles réunies sous le titre « La femme rompue ». C'est le dernier ouvrage de fiction que Simone de Beauvoir écrit en 1967. Ensuite, elle écrira beaucoup d'essais, de récits de voyages, mais plus des ouvrages de fiction. D'où mon intérêt pour cette dernière œuvre. Trois nouvelles qui peuvent se lire sans ordre de lecture. Il n'y a pas d'évolution entre les trois textes, il n'y a pas de lien entre ces trois femmes. La première, L'âge de discrétion, est un récit à la première personne où le personnage principal, une femme écrivain de 61 ans, sans nom ni prénom, raconte une période de sa vie. La deuxième nouvelle, Le monologue, uniquement fait des paroles en voix intérieure de Muriel, 43 ans, sans métier, mère au foyer. La femme rompue, c'est la dernière nouvelle qui a donné son titre au recueil, et c'est un journal intime tenu par Monique, 44 ans, qui tient pendant 6 mois la chronique de son histoire d'amour finissant avec Maurice, son mari. On voit bien qu'en disant « je », ces trois femmes parlent d'elles, de leurs conditions, de la société des années 60, société vue à travers leur prisme. Elles nous donnent trois images d'une même identité féminine. Simone de Beauvoir avait dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Que sont devenues ces femmes? Des femmes cassées parce qu'elles ont été casées. La même crise les réunit. Une crise existentielle. À un point problématique de leur vie. C'est le drame, peut-être banal, de la femme plus ou moins âgée, bourgeoise, qui se sent inutile et en décalage. Ces nouvelles ont vieilli, surtout celle de la femme rompue et celle de l'âge de discrétion. En revanche, Monologue, avec le drame de Muriel, est à mes yeux la plus poignante des trois nouvelles et celle qui n'a quasiment pas vieilli. Pourquoi ? Parce que Muriel, le seul personnage du monologue, y est en souffrance, y est en crise. En fait, elle souffre du décalage avec toute sa famille, dès son enfance, avec sa propre mère, qui lui préfère son frère et qui la violente. Muriel, quand elle devient mère, ne partage avec personne sa manière de voir l'éducation de ses enfants. Elle y perd sa propre fille, Sylvie, suicidée à 17 ans, alors que Muriel pensait la préparer à son avenir de femme. Je vous lis un extrait qui raconte cette relation mère-fille. Un petit garçon de 11 ans, ça serait gentil de l'emmener au cirque, aux zoos. Je le dresserais vite. Il était plus facile que Sylvie. Elle m'a donné du fil à retordre, molle et sournoise comme cette loche d'Albert. Oh, je ne lui en veux pas, pauvre choute. Ils étaient tous à la montée contre moi. Et elle avait l'âge où les petites filles détestent leur mère. Ils appellent ça de l'ambivalence. Mais c'est de la haine. Encore une de ces vérités qui les font râler. Étiennette suait de rage quand je lui ai dit de regarder le journal intime de Claudie. Elle a préféré ne pas regarder, comme ces femmes qui ne vont pas chez le médecin de peur d'avoir un cancer. Et alors, on reste la gentille maman d'une gentille petite fille. Sylvie n'était pas gentille. J'en ai dégusté quand j'ai lu son journal. Mais moi, je regarde les choses en face. Je ne me suis pas trop frappée. Je savais qu'il suffisait d'attendre qu'un jour elle comprendrait et qu'à leur nez et barbe, elle me donnerait raison. J'avais de la patience. Jamais je n'ai levé la main sur elle. Je me défendais, bien sûr. Je lui ai dit « Tu n'auras pas ma peau ». Ainsi, Muriel est également en décalage avec son mari, celui qui est le père du garçon et qui veut le garder malgré leur séparation. Elle est en décalage avec la société entière, avec ses voisins pour qui elle est l'emmerdeuse du dessous. En décalage avec les fêtards de la Saint-Sylvestre dans la rue, qui klaxonnent ce soir-là pour l'arrivée de la nouvelle année. Alors qu'elle, elle est toute seule chez elle. Et qu'elle voudrait des boules quies pour ne pas entendre ces bruits. Elle est en décalage, bien sûr, avec les juges, qui ne lui donneront pas la garde de son fils, alors qu'elle le réclame depuis qu'elle est séparée de son mari. Quel salut Monique peut-elle trouver avant de sombrer dans le drame ? Par son monologue, Muriel voudrait en fait raconter sa vie. Elle voudrait parler à nouveau, encore et encore à son mari Tristan, pour la garde de leur fils. Mais toutes ces tentatives de dialogue se sont déjà soldées par un échec. La métaphore des boules quies mentales illustre bien ce dialogue de sourds qu'elle entretient avec tous les siens. Le constat de Monique est pessimiste. J'ai vu que les mots ne disent rien. Les rages, les cauchemars, les horreurs, ça échappe aux mots. Monique souffre ce soir-là, ce soir de son monologue. Elle souffre et elle charge les autres. Et moi, en tant que lectrice, est-ce que je peux éprouver de la compassion pour cette femme, responsable 5 ans plus tôt du suicide de sa fille, à 17 ans? Est-ce que je dois éprouver de la réprobation? C'est une vaste question qui reste ouverte pour vous, futurs lecteurs, de ce monologue. Je parlerai maintenant de la langue que Simone de Beauvoir a utilisée ici. Une langue qui imite le flux du cri, d'où l'absence de ponctuation là où on s'y attend. C'est comme une vanne qui s'est ouverte, qui libère des bouffées délirantes. Muriel est en boucle, comme dans une crise de délire. Les événements, les personnages reviennent sans arrêt dans ses paroles. On sait combien c'est inquiétant, ou du moins perturbant, de se sentir en boucle, ou de sentir quelqu'un parler en boucle. Et c'est une émotion vraie que j'ai ressentie à lire ce monologue. Le langage de Muriel, lui aussi, est en décalage avec son statut social de bourgeoise qui se promenait, avant, un foulard Hermès sur la tête. Muriel, dans ce monologue, prononce des mots dégradés qui disent une situation dégradée, désespérée. C'est une sorte de lâcher-prise totale. Muriel et la femme qui dit sans détour des mots grossiers, « les cons, les salauds » sont les premiers mots de cette nouvelle. Elle dit des mots d'un mauvais genre, d'un argot parisien, de cette langue du mauvais garçon des années 60, qui sont des caïdes, qui parlent de chiards pour parler des enfants, qui parlent l'argot un peu à la manière de Queneau dans Zazie dans le métro, en 1959. Certains mots font image et produisent alors des effets comiques, involontaires de la part de Muriel. Elle dit par exemple « Je suis un chardon dans leur slip » pour dire combien elle dérange dans cette famille. Ou plus tard, dans une vision pessimiste, « Je veux vivre jusqu'à ce que les mythes aient tout dévoré. » Cet humour est proche de l'humour noir, du cynisme. Il peut déranger. Il peut mettre mal à l'aise le lecteur autant que l'amuser. Elle a également des mots violents, Muriel, pour dire la violence de sa vie, passée et présente. Et quand elle évoque la mort de Sylvie, sa fille, elle dit « Ce coup-là, je ne m'en relèverai jamais. C'était moi qu'on enterrait. Je suis enterrée. » En fait, c'est bien cette mort qui questionne le rapport mère-fille et qui est en creux dans toute la nouvelle. Si la mère de Muriel avait été autre, pas la pute, la garce, la vioque, la momie, comme Muriel la voit. Si cette mère avait aimé Muriel comme une mère, que serait devenue Muriel? Simone de Beauvoir a mis cette phrase de Flaubert en exergue du monologue. Elle se venge par le monologue. Mais est-ce que les mots dit par Muriel, lui ont permis de se venger de son malheur, de sa condition féminine. La question vous est posée. Lisez cette nouvelle pour pouvoir y répondre.
Thank you.